Les matins de France Culture.
La revue de presse internationale, bonjour Thomas Cluzel.
Bonjour,
et ce matin, toutes ces histoires dont on connaît malheureusement la fin.
Oui, c'était il y a 20 ans, un film phénomène sortait sur les écrans, Titanic de James Cameron. Un blockbuster qui pour une fois allait rapidement mettre d'accord le grand public et les critiques. Sauf qu'à l'époque, rien ne laissait entrevoir un tel scénario. Pas grand monde en réalité n'avait même parié sur ce film dont on connaît déjà la fin. Après tout, qui aurait eu envie de voir une relecture de Roméo et Juliette sur un paquebot en perdition? D'aucuns se souvient, un journaliste du temps voyait le film embrasser le destin de son décor unique et faire naufrage. Sauf que la suite est légende et à ce jour, cette super production reste le deuxième plus gros succès de l'histoire du cinéma. Alors oubliez à présent le grand écran. Dans la vraie vie, lorsque le même scénario dont on connaît déjà l'issue fatale se répète en boucle depuis des années, ce n'est plus franchement la même histoire. Prenez par exemple la Tunisie. Hier devait être un jour de fête, l'occasion de célébrer la chute du dictateur Ben Ali, tombé 7 ans plus tôt sous les fourches de la révolution. Au lieu de cela, la journée aura été marquée par de nouvelles manifestations, parfois même violentes, pour protester contre la hausse des prix et des impôts. Et pourtant, la veille, le gouvernement avait bien tenté de désamorcer la crise en annonçant le déblocage de dizaines de millions d'euros pour venir en aide aux familles les plus démunis. En vain donc, pourquoi? Réponse d'un chercheur interrogé par Al Jazeera, précisément parce que le même scénario ne cesse de se répéter. Les problèmes économiques provoquent la colère dans la rue, laquelle colère se transforme ensuite en révolte, que les partis politiques finissent par manipuler pour conquérir le pouvoir grâce à de fausses promesses, mais une fois ces partis au pouvoir, ils ne parviennent pas à résoudre les problèmes économiques. C'est un cercle vicieux où les politiciens se renvoient sans cesse la balle. Quand la majorité accuse l'opposition d'orchestrer les violences, l'opposition, elle, réfute. Tout en maintenant la pression, résume la presse repérée par le Courrier international. Au final, et tandis que dans la rue résonnent les mêmes slogans qu'en 2011, les partis jouent de la concurrence en espérant accroître leur influence respective en vue des prochaines échéances. Car avec le déclenchement de ces incidents, note à son tour le temps de Tunis, une course politicienne vient en réalité d'être officialisée, les municipales au printemps, avant les législatives et la présidentielle l'an prochain. Et entre-temps, le pays peut bien attendre que les petits calculs partisans prennent fin, ironie le journal. Après tout, dit-il, il n'y a que cela qui compte.
Petit calcul partisan en Allemagne cette fois-ci, et bientôt aussi peut-être petit meurtre entre amis, Thomas.
Oui, là-bas encore le même scénario semble décidément se répéter inlassablement, ou comment préserver à tout prix l'union nationale qu'incarne le principe de la coalition au pouvoir. Il y aura bien eu quelques rebondissements. L'échec tout d'abord à former une coalition des Jamaïques et le refus obstiné ensuite des sociodémocrates d'accepter la main tendue d'Angela Merkel pour reconduire cette fois-ci la GroKo, comprenez la grande coalition. Mais tout ça c'était avant, puisque vendredi dernier, CDU, CSU et SPD ont présenté un programme de coalition, sauf que la formation d'un gouvernement n'est pas encore acquise, prévient la Deutsche Welle, puisque chacun des trois partis doit désormais faire valider cet accord par sa base. Or, plusieurs fédérations régionales social-démocrates, notamment, penchent déjà en faveur du refus de toute alliance. Et c'est sans doute la raison pour laquelle, note de son côté la Frankfurter Allgemeine Zeitung, en présentant leur point d'accord, les dirigeants des trois partis respectifs ne respiraient pas franchement l'euphorie, tout juste un optimisme prudent.
Et puis, Thomas, les Tchèques votaient ce week-end et le changement, a priori, eh ben, ça n'est pas pour maintenant.
Non, Milos Zeman, qui brigue un second mandat, est arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle avec 38,6% des suffrages contre 26,6% pour son principal adversaire. Pour autant, sa victoire n'est pas encore assurée. C'est la raison pour laquelle, face au risque de ne pas faire le plein de voix au second tour, il a d'ores et déjà invité les électeurs à ne pas se laisser influencer. Je pars du principe que les citoyens ne sont pas des marionnettes que l'on peut manipuler sur la base de ralliement, a-t-il déclaré. Seule certitude, le portrait que dresse de lui la presse invite surtout à espérer que son nom ne figurera pas au générique final. Ce populiste, eurosceptique et vulgaire qui ne ménage jamais ses efforts pour être politiquement incorrect a polarisé les Tchèques, à l'instar du Premier ministre hongrois Viktor Orban. Zeman, rappelle The Irish Times, se prosterne au pied de l'extrême droite en attisant la peur à l'égard des réfugiés. Selon lui, la crise migratoire est une invasion organisée avec des musulmans impossibles à intégrer. La thèse centrale de son programme se résume à cette phrase: ce pays est à nous. Et le problème, constate le journal de Prague, Mlada Frontanes, c'est qu'aucun de ses adversaires ne s'est donné le mal de consulter les sondages qui donnent les opposants à l'immigration clairement majoritaire. Et l'éditorialiste d'en conclure, ce n'est donc pas par hasard si Zeman reste encore aujourd'hui le favori du scrutin.
Enfin, Thomas, ce pourrait être un titre de film, 38 minutes pour survivre.
Oui, ce week-end, une fausse alerte au missile a semé la terreur sur l'île américaine d'Hawaï après le déclenchement par erreur d'un message d'urgence qui enjoignait la population à se mettre à l'abri. Sur les téléphones portables, raconte The New York Times, le message suivant s'est affiché: menace de missile balistique. Ce n'est pas un exercice. Et bien évidemment, dans le contexte tendu entre la Corée du Nord et les États-Unis, la panique s'est donc immédiatement emparée des habitants, d'autant que l'alerte n'a été annulée que 38 minutes après son émission, semant la confusion à la fois sur les raisons de son déclenchement et du temps qu'il a fallu pour l'annuler. Comme cela a été indiqué par les autorités, un employé aurait pu appuyer sur le mauvais bouton, mais pour une fois, l'histoire se termine bien.